Accra, ça a toujours été un rêve pour moi.
Je suis amérindienne, c'est ma première identité.
Si je serais actrice, je serais la première actrice amérindienne. Je représente mon peuple.
Épisode numéro 5. À la reconquête de l'identité.
J'ai pris le tiki en fait. C'est lui qui me guide tout le temps, tout le temps. Les tiki, il y en a partout. Je les remercie de me donner la force. Jamais je perdrai ça. Je suis fier d'être un vrai guerrier.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Amérindien de Guyane, Mahorais de Mayotte, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Cet été, ils s'invitent sur le devant de la scène avec leur identité et réclament le droit à la différence. C'est la voix des peuples autochtones, la France ne l'a pas entendue pendant des siècles, alors peut-être est-il temps de l'écouter. Direction la Guyane et la Polynésie. En Polynésie, sous l'impulsion des missionnaires et de l'administration française, les îles Marquises ont dû abandonner leur culture, associée à l'œuvre du diable. Menacée d'extinction au début du XXe siècle, la population s'affirme aujourd'hui à travers ses traditions. En Guyane, 3000 Indiens de la forêt vivent entre deux mondes, celui du passé, de leurs ancêtres, avec leurs croyances et leur culture, et celui du présent, de la France, avec sa modernité et sa technologie. Aujourd'hui, ils inventent une nouvelle identité, singulière et universelle. Deux peuples, deux continents, et un même voyage à la reconquête de leur identité.
Je suis Wayana, nous sommes Wayana. N'ayez pas honte d'être Wayana parce que nous naissons Wayana et nous le resterons toujours. Plus les anciens disparaissent, plus les jeunes ne se préoccupent plus du passé. Ils oublient quoi. Dans quelques années, qui présentera notre culture? Je pense pas que vous aurez encore des Amérindiens au micro. Nous sommes quand même importants parce que c'est nous les premiers habitants de la Guyane.
En quelques décennies, ils sont devenus des citoyens français. Ils ont découvert un nouveau système de valeurs, mais ils ont perdu leur mode de vie traditionnel, leur savoir et leur dignité. Aujourd'hui, ils sont entre deux. En cause, une politique d'assimilation trop rapide et des aspirations souvent contradictoires. Sur place, au cœur de la forêt, les Amérindiens sont souvent en perte de repères. Les chercheurs d'or créent un climat de violence et d'insécurité. L'alcool et la drogue rongent les corps et les esprits. D'où des taux de suicide 18 fois supérieurs à la moyenne nationale. Le mal-être est profond et ils rêvent d'une identité propre tout en étant français. C'est le dernier combat des Amérindiens de Guyane. Michael Dewar-Plana est photojournaliste. Depuis 25 ans, il met en lumière les peuples autochtones et depuis 4 ans, il accompagne ces Amérindiens dans cette reconquête identitaire où l'habit est un jeu de miroir.
Je me suis rendu compte qu'ils passaient souvent d'un costume à un autre. C'est-à-dire un jour on voyait un homme avec un kalimbé, c'est-à-dire un cache-sexe, et le lendemain on le voyait en baguille, en short, avec la casquette à l'envers. J'avais envie de parler de cette problématique identitaire. Ils ne sont plus totalement comme les parents ou les grands-parents, mais ils ne sont pas non plus comme les occidentaux, les métros qu'ils voient. J'ai donc photographié, fait des portraits d'eux en costume traditionnel et en occidental. Et lorsque je leur montrais ces deux photos, ils étaient extrêmement perturbés. Parfois, ils ne se reconnaissaient même pas, parce qu'évidemment, eux ne se voient pas. Ils ne changent pas, ils changent de tenue, mais ils ne changent pas au fond d'eux-mêmes.
Alors, je suis Sylvana Opoya, et je suis une Amérindienne. Je fais partie d'un peuple autochtone, spécialement Wayana. Ma population se trouve sur le fleuve Maroni. Je suis fière et je me sens chez moi ici, en Guyane. Et je sais d'où je viens.
Sylvana est une jeune fille de 19 ans. Et c'est la première Amérindienne du côté du Maroni à obtenir son bac général. Donc elle en est très très fière. Et aujourd'hui, elle est en première année de fac. Un jour, elle est venue en costume traditionnel et en me demandant, voilà, maintenant je suis prête. Quand est-ce qu'on fait la série photo?
Alors, quand elle a vu ces deux images?
Elle en était très fière et pour elle, elle est ses deux filles.
Quand je suis sur le littoral, je suis moi, mais même si je fais des trucs que je ne fais pas chez moi, C'est plus la modernité qui nous attire le plus. Je vis dans deux mondes différents. Pour moi, c'est juste magnifique d'être dans les deux mondes à la fois.
C'est la première génération qui brise de nombreux tabous. Et c'est ce qu'elle raconte aussi dans son témoignage. Elle dit qu'elle n'a plus envie de vivre ce qu'a vécu sa mère ou sa grand-mère, des mariages forcés, où la femme est cantonnée à des activités qui sont supposément les leurs. Les enfants, la bâtie, même n'a pas véritablement droit au chapitre. Et elle, elle a envie de vivre une vie de femme, pleinement, avec des histoires d'amour, libres, que ce soit avec des Amérindiens ou des Bushinengués ou des Créoles ou des Métros. À partir du moment où l'autre monde existe, pendant longtemps, ils ont vécu seuls dans la forêt, sans véritablement de contact extérieur, donc ils ne pouvaient pas comparer. Aujourd'hui, les jeunes, puisqu'à partir de 10 ans, ils vont en ville, effectivement, la ville paraît beaucoup plus facile. Pour les jeunes, ils ne vont pas travailler à la bâtie, ils ne doivent pas passer 3 jours de bivouac en forêt pour aller chasser. Donc quand ils reviennent au village, c'est très très compliqué pour eux. Les parents ont l'impression que leurs enfants n'ont pas changé, mais eux, oui. Et c'est ce qui provoque aussi ces problèmes générationnels. Ils ne parlent plus du tout le même langage et les attentes ne sont plus du tout les mêmes.
Actrice, ça a toujours été un rêve pour moi. Ça me permet d'être une autre personne, en fait. Parce que pour être reconnue, je dois être française. Mais après tout, je suis amérindienne. C'est ma première identité. Je suis amérindienne, mais je dois montrer que je peux être autre chose, en fait. Par exemple, si je serais actrice, je serais la première actrice amérindienne. Et je représente mon peuple, spécialement les Wayana, ainsi que tous les Amérindiens de la Guyane, de tout le pays.
Ce qui est très étonnant dans les diptyques chez des jeunes filles comme Sylvana, c'est cette différence. Ces deux personnalités qu'elle montre, en traditionnel, on les sent un peu figées, un peu droites, un peu fières. Bah, sa camisa, c'est-à-dire son pagne, son cache-sexe, avec un tablier de perles et les seins nus. C'est un regard d'une femme fière de ce qu'elle est, de sa culture, de ses racines. Et puis de l'autre côté, où on la voit habillée à l'occidental, avec un short très court, avec une position extrêmement féminine, où tout d'un coup, effectivement, le fait de s'habiller comme l'autre lui permet de vivre une féminité qu'elle n'a pas lorsqu'elle est dans son monde traditionnel. Alors les filles, elles ont des attitudes un peu lascives, un peu provocantes, alors que les garçons, c'est plutôt en amérindien, ils jouent un peu les guerriers. Et puis en occidental, c'est un peu les mauvais garçons. Et finalement, ils sont ni l'un ni l'autre. C'est une attitude un peu schizophrénique où ils jouent des personnages, mais ils ne savent plus qui ils sont réellement.
Sur l'autre rive,
Edvard, c'est un anagogue. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les deux costumes. Edvard, qui a été étudié en ville, à Cayenne. Et Edvard, lorsqu'il est allé là-bas, il s'est un petit peu perdu. Tout d'un coup, il était face à une liberté qu'il n'arrivait pas du tout à maîtriser. Tout d'un coup, il a eu un flash et s'est rendu compte que s'il voulait se sauver, il fallait rentrer dans son village et retrouver sa culture, retrouver ses racines.
J'avais rien à faire sur littoral, je faisais que le vagabondage. Je m'appelle Edvard Angelo Jean-Baptiste Anogog. Je suis Teko et Wanyampi. Je suis un Amérindien, américain aussi, européen, français. Être citoyen du monde, c'est une identité qu'on a envie d'avoir.
Dans quoi tu te sens le mieux ?
En amérindien, un habit traditionnel. Mais je ne porte plus souvent l'habit traditionnel.
Alors là, en tenue traditionnelle, si on pouvait décrire cette image.
Il a mis son kalimbé, donc c'est un cache-sexe, avec des colliers de perles et une couronne de plumes.
Là, il est prêt à partir à la chasse. Sur l'autre image, on pourrait l'associer à n'importe quel jeune américain, baggies, t-shirt long. Alors quand Edward a découvert ces deux images côte à côte, quelle a été sa première réaction ?
Ça les fait sourire, ça peut même les mettre un petit peu mal à l'aise, parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, et c'est ce que montrent ces diptyques aussi. Et donc ils sont en train de reconstruire une identité, et effectivement ils ne sont plus comme leurs parents ou leurs grands-parents, mais ils ne sont pas comme nous non plus. Ils sont en train de réinventer une identité. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une espèce de conflit de loyauté malgré tout à leur culture. Les jeunes voudraient continuer à être amérindiens, voudraient, mais sont totalement fascinés par l'autre monde. Et ça provoque parfois des situations et des comportements que personne ne comprend et qui parfois débouchent au suicide.
Mais moi aussi, j'étais dans cette problématique avant. Mais s'il y avait des esprits forts, peut-être que j'allais me suicider aussi.
Tu finis par nous dire qu'ici, ce sont les mauvais esprits qui se sont emparés du corps des jeunes.
Oui, c'est ce qu'on pense tous les Amérindiens pensent. Heureusement que j'avais croisé quelqu'un, une association qui s'appelait ARSCA, qui était dans la prévention alcool, drogue et suicide. J'ai pu m'en sortir aussi.
Chaque témoignage raconte quelque chose de différent dans ce travail. Tout d'un coup, il était face à lui-même, finalement. Parce qu'il s'est rendu compte qu'ils sont à la fois l'un et l'autre, ou peut-être qu'ils ne sont plus totalement l'un et plus totalement l'autre non plus. Ils n'ont plus le choix. Cette traversée, ils vont devoir la faire. Et s'ils ne la font pas, c'est notre monde qui va peut-être les manger petit à petit. Mais qu'est-ce qu'ils vont emmener avec eux ? Moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que ce soit eux qui se posent cette question, et qu'ils sachent où ils veulent aller, dans quel monde ils veulent vivre. C'est eux qui pourront changer les choses, qui sauront savoir dans quel monde ils ont envie de vivre. Tout est arrivé tellement rapidement qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Et les autorités françaises ont mis énormément de temps à reconnaître cette problématique dans les villages. La Guyane est française, c'était un département français. Ils ont été totalement délaissés, soi-disant pour les protéger, puisque pour rentrer sur ces territoires, il faut une autorisation de la préfecture. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces autorisations ne sont faites que pour éviter d'être témoin de ce qui se passe chez eux.
Voyage en terre d'outre-mer, sur France Inter, chez les Amérindiens, en Guyane.
On est là, sous ce petit carbé, au petit matin. Tout le monde a son iPhone et tout le monde écoute de la musique. Votre musique.
Tikou Makan, ça veut dire le guerrier Tikou. Mais après, là, on a gardé le mot Makan pour désigner maintenant les guerriers d'aujourd'hui. C'est se battre pour cette vie-là, pour les jeunes, pour nos générations qui vont venir après, pour les enfants.
Lucien Panapuy, du groupe Tekomakan.
C'est pour ça qu'on est la musique aussi, c'est pour montrer qu'on existe aussi, quoi, quelque part. Ça nous encourage à continuer dans la musique et aussi montrer qu'on existe ici en Guyane. En fait, on fait la transition de deux sociétés, quoi. L'Occident, avec les Amérindiens, c'est plus prendre des flèches, faire les faces aux colons et puis faire la guerre, quoi. C'est plus ça, c'est un autre modèle de guerre. Donc on prend ça en main pour mettre en avant la culture, nos messages. En amérindien, le message de paix, stop à la violence, la suicide. Puis donner confiance aux jeunes pour dire que voilà, même si c'est dur, on peut y arriver. Montrer qu'on est là vécu et qu'on ne les oublie pas. Je
voudrais affirmer la culture en Téco. On veut avancer, on veut évoluer parce que maintenant on sait lire et écrire. Là, on voudrait que la France reconnaît qu'il y a une partie dans le trou du monde des personnes qui sont toujours là et qui survivent. On voudrait affirmer notre identité parce que les jeunes ils sont déboussolés et parfois ils se posent au suicide, parfois ils veulent imiter les gangsters ou ils sont malheureux, ils sont tristes au fond d'eux. Et nous-mêmes les jeunes, on voudrait bien qu'on reconnaisse nos projets pour qu'on puisse les réaliser. Je ne perds pas espoir. On est toujours là et on tient debout et on a envie d'avancer.
Pour les aider, mais c'est à travers la chanson, à travers des vidéos, mais ils se sentent aussi dans la peau du personnage. Quoi. Ils se disent, ah, ben, c'est un Amérindien, c'est un Tekou. Des fois, pour des soucis personnels, des fois, on entame une discussion. Ça permet une autre forme de guérison à travers les paroles. Les discours qu'on donne, puis de faire des trucs ensemble. Il y a du monde qui nous suit derrière, on le sent. Donc ça nous donne aussi une puissance de reconnaissance du Tekou. Ça veut dire que voilà, on fait partie des Makan qui ont survécu jusqu'en 2017, et puis qu'il y a 40 ans, on disait qu'on allait tous disparaître.
Vous étiez même, je crois, 50.
Ouais, une cinquantaine, et arrivé maintenant en 2017, à 500, 600... Je pense que c'est une bonne nouvelle quoi, pour cette année. On est confiant.
Depuis 2012, ces jeunes chantent pour résister. Grâce aux réseaux sociaux, leur clip « Nos suicides » a été vu dans le monde entier. Il a été tourné à Camopi, sur le fleuve Oyapock, un village isolé au cœur de la forêt amazonienne. Surnommé le Far West dans les années 80, cette commune se refait une réputation.
Voilà, Camopi, hein. C'est Simel aussi, c'est un autre chanteur aussi.
C'est l'île des chanteurs à Camopi. Hein. Alors, il y en a certains qui ont encore leur kalimbé, tenue traditionnelle, de tissu rouge.
Les guerriers de Camopi, ouais.
Je sais que vous, la famille Panapuy, vous avez à cœur aussi d'être attaché aux traditions, de ne pas oublier d'où vous venez.
Tous ces genres de travail-là qu'on doit continuer aussi avec les jeunes, la transmission, la culture, là, elle est vraiment présente aussi dans notre vie de quotidien. Donc la musique est là, puis spirituel aussi, le chaman, tout ça, est revient.
Ouais, Joachim qui prend le tambour. Voilà, et puis là, dans un sac, il y a tous les instruments, la flûte.
Ça, c'est le carapace du Tawaou, une torture.
Ouais. Maracas, qu'on distribue. Ça, c'est une flûte en os.
C'est des kayakou.
C'est une biche quoi, de l'Amazon, de la forêt.
Et alors, qu'est-ce que vous allez jouer?
Appeler des gens, inviter tous
les gens. En fait, c'est pour une invitation en chant et en musique. Quand c'est une remonie qui se met en place, ben c'est une manière de dire aux personnes, allez, on est là, donc préparez-vous, habillez-vous et puis approchez. En fait, ça aussi, ça permet de vraiment rassembler toute la génération. Il y a tout le monde qui est là autour de cette cérémonie. Et puis les vieux commencent à raconter des histoires, des anciens, tout ça. Tu vois, ça leur fait du bien que bon, personne ne les raconte encore.
On va jouer la langue des Teko. Quand Aipoa et Nam.
Chez les Teko, la musique est très épantone, puisque ça raconte les voyages qu'ils ont faits. C'est une sorte de mémoire pour les Teko.
Il ne reste plus en fait que des éléments. Et les anciens, les chamans en particulier, qui sont quand même les dépositaires de cette tradition, ont conservé certains cycles de chants.
Éric Navet, ethnologue.
Et malheureusement, tous les grands chamans sont morts aujourd'hui. Le dernier vient de mourir il y a quelques mois. Donc il faut réinventer, il faut reconstituer aussi. À partir des savoirs qui restent des uns et des autres, on reconstruit. Donc, c'est comme ça en permanence. Alors, soit les choses disparaissent, soit elles prennent de nouvelles formes. Là, on a un bel exemple de Joachim, qui est le Tazat, le chef de village. Je vois que l'accent est porté sur une espèce de dimension historique, de vision du monde, d'intégration dans ce monde moderne. Il est beaucoup question des Blancs, des perturbations qu'ils ont apportées. Donc la tradition n'est pas quelque chose de fixe, elle a toujours évolué.
Pour vous, c'était important de suivre l'enseignement de votre père?
Oui, pour moi, c'était important, puisque j'ai un peu grandi chez les sœurs et il y a eu les religions aussi. Mmh. Donc je ne savais pas où me placer, ce que je faisais dans toute cette histoire. Et en fin de compte, j'ai réussi à me réintégrer dans la société grâce à mon père qui par la suite m'a montré les danses teko, raconté des histoires, des contes qui m'a permis d'être plus ouvert au monde. On ne peut plus faire marche arrière. L'évolution n'est plus une barrière. N'oublions jamais. Conservons nos langues et nos cultures. Partout, l'Amérique du Sud, c'est vraiment amérindien. L'Amérique du Nord, tout ça. On sent qu'il y a même une lutte qui se mène dans d'autres terres. Et aussi peut-être de nous donner une force de reconnaissance de droits peuples autochtones. Ils se sentent un peu oubliés, abandonnés. Et là, avec nous, les jeunes, qu'on a là, avec lui, ça redonne la force.
Et puis
de montrer ça aux jeunes et que maintenant, là, ça recommence à se réveiller, quoi. Ça va repartir. Là, aujourd'hui, il va arrêter avec le dernier son qu'il va faire. C'est l'histoire de Macan, de guerrier, un hommage pour tous les guerriers de ceux qui ont existé sur cette terre. Et au Canada, passant par Quechua, tous les endroits.
Voilà, l'année là.
Voyage en terre d'outre-mer, une série d'Anne Pastor sur France Inter, à la reconquête de l'identité.
D'une rive à l'autre, sur le fleuve Maroni, les Indiens Wayana, en devenant citoyens français, ont perdu une grande partie de leur identité. Les jeunes, partis étudier sur le littoral, se détournent de leur culture. Les anciens n'ont pu transmettre leur savoir et leurs objets rituels ont disparu ou ont été vendus à des collectionneurs. Alors ils ont décidé pour la première fois, non pas d'être les sujets, mais les acteurs d'un projet ethnologique. Depuis 2016, une dizaine d'entre eux visitent les musées à Cayenne, à Paris ou à Beaune et dressent un inventaire de leur propre patrimoine. Aïma Opoya participe au projet, il est artisan d'art dans le village de Talouenne.
La mémoire traditionnelle, si on peut dire comme ça, ne dépasse pas plus de 100 ans, 150 ans maximum. Même nos contes, tout ça. Quoi. Donc il y avait plein d'objets qui étaient amenés par les gens qui sont venus chez nous avant. Quoi. Les Wayana sont un peuple qui est l'un des peuples qui ont pu sauvegarder leur patrimoine culturel. Quoi. Et donc c'est encore très présent chez nous. Quelques familles possèdent des coiffes chez eux. Et ces coiffes, des fois, ça vient de très très loin. C'est transmis de parent en parent.
Et dans ce rituel du maraké, il y a effectivement toute la culture Wayana, tous les objets Wayana.
Oui, ça englobe vraiment l'espace traditionnel Wayana. Donc à travers du rituel maraké, on apprend vraiment tout. Quoi. Il y a le savoir-faire qui est transmis, matériel et immatériel. Bien entendu, les contes les accompagnent. La fabrication des parures, tout ça, il y a les apprentissages, la formation. La vie courante également est enseignée. Le maraké, il y a 12 danses préparatoires avant donc, la finale qui est le 13e danse, la danse des postulants, donc des TPM qu'on dit chez nous, qui se traduit donc par les piqûres des guêpes ou des fourmis. Mais c'est vraiment un geste pour montrer qu'on rentre dans l'aspect traditionnel Wayana, pour montrer à tout le monde qu'on rentre dans ce mode de vie. C'est ça l'idée des piqûres.
Et pour eux, c'est très important d'être stoïque, de pouvoir supporter la douleur, de pouvoir vaincre cela.
Eliane Camargo, ethnolinguiste.
Car au cours des rituels, il y a beaucoup de règles sociales qui sont transmises et il y a des chants très importants. Et à travers ces chants, il y a aussi le comportement de l'individu Wayana. Il y a une envie de reprendre le rituel, car ils disent que quelque part, ces rituels donnent un certain équilibre à la société. Et avec l'abandon, ils ne se retrouvent plus. C'est un rituel très important dans le cadre de la cohésion sociale. Certains disent, mais on ne veut pas être stigmatisé comme les gens de la forêt, comme les Indiens, comme les sauvages. Et si on accepte, hein, si on rentre dans un rituel, comme celui-là, c'est le regard de l'autre, parfois, qui dérange. Ils ne veulent pas ça. Oui, ils sont au milieu de la rivière. Ils ne savent pas très bien où aller. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais au niveau de la culture, pour des petites choses, ils ne sont pas encore vraiment assis en se disant, bon, je suis Wayana, je suis fière d'être Wayana et d'avoir cette connaissance.
Maintenant, je pense qu'il faut informer la population quoi, pour sur ce qu'on fait. Quoi.
Là-bas, il est prêt.
Ouais. Il est prêt. Musée Kebrandi, le Paris-Po. Un musée guyanais, la TVA pour Kayenko. Mouvement Paris-Po Kebrandi, était tout référé.
Mimi s'est approché du PowerPoint et des images. Tous ces objets, vous les connaissiez
C'est vraiment ancien, mais j'ai jamais vu tous ces objets-là.
Je ne pas capter
les souvenirs. Il y a des parures avec lesquelles on dansait, etc. Sauf que maintenant, il n'y a pas tout ça.
Vous n'avez pas de
On vous sent quand même ému, hein. De rester comme ça, là, devant l'image.
Quand je vois ça, parfois ça me rend triste parce que j'ai des mémoires de l'ancien, etc. Quoi. Et que maintenant, on a pas tout ça.
Et alors, justement, là, il y avait quelques anciens, beaucoup d'enfants et un petit jeune.
Très bien pour la jeunesse. Je pense peut-être un jour, il y aura des volontaires qui veulent apprendre, quoi, qui veulent confectionner les objets.
J'ai eu 19 ans, 8 octobre. Je veux tout regarder. J'aimerais tellement refaire tout ça. Parce que maintenant, il n'y a presque plus rien. Il y a des gens qui oublient leur culture. Il faut qu'on apprenne tout ça. Pour que ça revienne, vous voyez.
ce projet s'appelle Savoir autochtone Wayana Palin. Le but principal, c'est une restitution. Et ensuite, mettre sur un portail qui sera en Wayana, et qui sont eux qui font tous les choix. Et l'autre chose qu'ils sont en train de faire, c'est de voir ce qui pourra être d'accès public et d'accès restreint. On essaye de trouver des solutions pour qu'ils puissent déjà commencer à avoir un accès à partir de l'année prochaine avec le téléphone mobile.
Voilà, tu prends ton téléphone portable, tu es en train de regarder sur Google.
Je ne veux pas perdre mon culture. Mon culture. Bah, oui. Je veux tout regarder, des anciens objets. Oui, je suis un Amérindien de la Guyane, fier de l'être.
Aujourd'hui, il souhaite que le rituel du maraqué soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il souhaite aussi suivre un stage d'anthropologie, non pas sur leur culture, mais sur les anthropologues, afin de mieux comprendre ce qu'ils attendent d'eux. Ironie de l'histoire, ils renversent les rôles et redéfinissent une identité en intégrant l'autre, tout en le charmant. Un pied de nez à la colonisation et un symbole de la résistance de ce peuple amérindien.
J'ai pris le tiki en fait.
À 15 000 km de là, en Polynésie, c'est le réveil dansé des marquises. Et c'est grâce à un évêque breton, Monseigneur Lecléac, que ce peuple a retrouvé son identité.
J'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leur smoking, dans leur plastron, dans leur faux col, dans leur monocle, dans leur melon. J'ai l'impression d'être ridicule avec mes orteils qui ne sont pas faits pour transpirer du matin jusqu'au soir, qui déshabille avec le maillotage, qui m'affaiblit les membres et enlève à mon corps sa beauté de casse-sexe. J'ai l'impression d'être ridicule avec mon cou en cheminée d'usine, avec ces maux de tête qui cessent chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule dans leur salon, dans leur manière, dans leur courbette, dans leurs multiples besoins de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule avec tout ce qu'ils racontent, jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi un peu d'eau chaude et des gâteaux enrhumés.
Voyage en terre d'outre-mer, à la reconquête de l'identité. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Ça veut dire pour les anciens. Après, non, t'es mana, ça veut dire pour les mana.
La puissance.
Non, t'es pas pour le sacré. Qu'est-ce que maman, ça veut dire? Donne-nous de l'intelligence.
Voilà, il est en train de rentrer dans la peau de ce guerrier. Le visage totalement transformé.
Lorsque les Européens débarquent aux îles Marquises au XVIIIe siècle, ils découvrent des hommes tatoués, de la tête aux pieds, des cannibales et des femmes à peine vêtues d'un pagne. Ils sont près de 80 000 à vivre sur cet archipel, à 1400 km au nord-est de Tahiti. Tout le monde est alors prié de se rhabiller et de se civiliser. Au passage, ils perdent avec les missionnaires leur décor corporel et leur culture, en particulier la langue et le culte des anciens. En 1926, ils ne seront plus que 2000. C'est la chronique d'une mort annoncée. Dans les années 70, les Marquisiens, en exil à Tahiti, subissent encore des moqueries. On les surnomme les barbares païens. Alors ils ripostent en créant une académie culturelle et un évêque breton, Monseigneur Le Cléac, fraîchement nommé sur les îles, les encourage à reprendre leurs traditions. Ils redécouvrent leurs racines, le culte des anciens, et en particulier du tiki. Cette statue de pierre veille, du haut de ses 2 mètres, sur les terrasses cérémonielles des sites sacrés ou à l'extérieur des maisons. Mi-homme, mi-dieu, cette divinité aux grands yeux ronds inquiète autant qu'elle rassure. Avec sa grosse tête, siège du savoir et du pouvoir, le tiki est le symbole de toute la culture marquisienne.
Aujourd'hui, on a réduit tiki à un aspect anthropomorphe. Ils ont taillé cette énergie de l'univers avec le visage et le corps d'un homme. Tiki, c'est bien au-delà. C'est quasiment la vie. Parce qu'il est tiki incarné. Comme il a une relation directe avec l'ancêtre tiki, quelques éléments de tiki sont en lui. C'est comme un ADN. Et comme tiki, c'est une déité, c'est une divinité, lui aussi, c'est une divinité. Et toute la conception polynésienne, en fait, fait de l'être humain un dieu. Pour moi, c'est quasiment l'ancêtre de tous les Marquisiens à l'heure actuelle. Alors, Edgar Tetayetupa, je viens des Marquises, et plus précisément de l'île de Tawata. Et si on va jusqu'aux premiers ancêtres, on peut aller très très loin. Très très loin avec la liste et les noms de tous les ancêtres. Je les ai avec moi. Mais je ne dirai pas le nombre d'années parce que ça va surprendre énormément de gens, de personnes.
Ah ben là, il faut le dire.
Plus de 4000 ans, au-delà des tiki. Le pied, en fait, ce sont des racines. Et ça, effectivement, c'est le tronc. C'est comme un arbre, en fait, les racines. Les cheveux, en fait, sont considérés comme les feuilles d'un arbre parce que l'arbre, en fait, c'est l'axe qui lie les ancêtres d'en bas, nous, qui sommes ici sur Terre, et les ancêtres d'en haut. Et donc, les cheveux, ça a la même caractéristique que les feuilles de cocotier ou que les plumes d'oiseaux. Les plumes, en fait, sont un élément qui arrive à capter la puissance et le mana des dieux. Et les yeux, en fait, ce sont les organes par lesquels on a la connaissance. Et Tiki était planté aussi tout autour des champs, tout simplement pour que le champ soit productif. Et Tiki emmagasine aussi toute la force, tout le mana, pour qu'il y ait production et tout. Et donc... par l'intermédiaire de Tiki, les gens avaient effectivement cette espérance, voilà, de continuer de propager la vie. On parle beaucoup de Tiki comme élément phallique, mais en fin de compte, on est tous nés de ça. Tiki, en fin de compte, c'est une force de l'univers, c'est toutes les forces qui effectivement aident à apporter la vie dans le monde, dans l'univers et sur Terre aussi.
Mais regardez ici, dans ce jardin qui est devenu un lieu d'exposition, entouré de tous ces tikis, si on se balade, on remarquera qu'il n'y a pas une représentation de tiki, mais des représentations de tiki.
Oui, c'est tout à fait ça. Les artistes se sont appropriés de ça pour marquer de leur empreinte en tiki et à leur manière et leur vision. C'est lui l'artiste.
Et je m'appelle Kaya Augustin. Les tiki, par exemple, c'est pas à tout le monde. Parce que je suis descendant aussi des tiki. Et puis en même temps, c'est un protecteur.
Et puis c'est aussi un esprit bienfaiteur.
Ah oui, ça dépend de la famille. Ça peut être aussi... Et
pour vous.
Mauvais aussi.
Mais pas tous les tikis. Et les gens ont beaucoup retenu, en fin de compte, ces influences néfastes et menaçantes sur l'homme. Et donc, il y a toujours une crainte lorsque les gens s'approchent de tikis. Par exemple, il y a des tikis qui ont été utilisés pour caler la porte, par exemple. Et effectivement, il y a eu des gens qui ont subi quelques maladies et tout. Et il a fallu les conseils d'un prêtre pour dire que ce tiki, il faudrait le ramener à sa place. Il faut être bienveillant.
Oui, d'ailleurs, vous le caressiez tout à l'heure.
On peut caresser, on a mis le monoïde dessus. C'est fait pour, on peut toucher. Quoi. Le tiki, toi, il est là. C'est comme quelqu'un qui est vivant. Puis tu respectes.
Et puis ça vous apporte la force, la puissance.
La force, la puissance, et puis la douceur aussi. Puis le partage. C'est ça, c'est tout, quoi. Ce tiki-là, c'est un poteau. Nous, on dit en maquisin, katina, c'est le pilier de la maison. Quand il y a des tikis comme ça sur une maison, c'est que c'est des gens qui sont puissants. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai sculpté. Quoi.
Je pense qu'ils ont vraiment rattrapé beaucoup de chemin, en fait, par rapport à leur isolement et par rapport, c'est vrai, à leur situation de domination culturelle qu'ils connaissaient.
Bruno Sora, anthropologue.
Alors les Marquises, c'est intéressant parce que c'est l'évêque des Marquises qui a accompagné ce mouvement. C'était un Breton, Monseigneur Le Cléac, et donc il a accompagné complètement, il a dédiabolisé en fait ce retour au passé, parce que quelque part c'est un retour au passé, dans le sens où il s'agit d'évoquer, voire peut-être même d'invoquer, des dieux des temps anciens. Mais les évoquer, les peindre, en parler librement, voilà, sans culpabilité, ils se sont dit, ben voilà, on a une culture qui a existé bien avant l'arrivée de l'autre. Mais l'idée de faire la messe en marquisien, oui, c'est venu dans les années 1980. Ça n'a rien de diabolique ou de païen ou quoi de faire la messe en marquisien. Mais disons que c'est tout un mouvement, voilà, de réappropriation de sa culture, en sachant que cette culture comprend effectivement un passé païen. Donc après, c'est compliqué. Il y a eu tout un art marquisien religieux qui s'est développé dans les églises des îles Marquises, des vierges à l'enfant marquisienne. Est-ce qu'on veut qu'elle ressemble vraiment à une Vierge Marie, donc à une maman juive du Moyen-Orient, ou est-ce qu'on veut qu'elle ressemble à une dame marquisienne des temps anciens qui potentiellement aurait les seins nus? Est-ce que c'est correct pour une vierge aux îles Marquises? Enfin bref, voilà, le débat il est là. Quelle dose on met d'authenticité marquisienne et à quel moment on est toujours dans les canons un peu de la culture catholique?
Voyage en terre d'outre-mer. Une série d'Anne Pastor sur France Inter. Chez les Marquisiens, en Polynésie.
Je m'appelle Tahiro Cyril Tehautetua, mon nom marquisien. Tehautetua, la paix de Dieu. Je veille sur le village, en fait. C'est vrai que je suis bien placé en hauteur. Je vois tous les bateaux qui arrivent de chez moi. Avant, il fallait courir, il fallait... Le pou, on appelait ça dans un coquillage. On faisait appel aux autres guerriers. Voilà, il faut protéger la vallée de ce qui arrive. Notre clan ici, dans la vallée, on appelle le clan des Taïwoho. Je suis fier de dire que je suis un guerrier marquisien. Je suis fier d'être un vrai guerrier.
Pas question d'avancer sans y être invité. Accoudé aux planches de sa véranda, l'homme, recouvert de tatouages, vous regarde venir et cloue dans vos yeux deux prunelles noires opaques. Le temps est en suspens. Enfin, il se détend et vous accueille par ces mots. Tiki m'a averti que vous alliez venir. Il est le Enata, le vrai marquisien.
Pour moi, être marquisien, c'est être simple, travailleur, c'est-à-dire aller à la chasse, à la pêche pour nourrir la famille. C'est tout ça, au fait. À cause de ça, bon, je voulais devenir comme nos anciens. Le plus dur, c'était de reprendre, en fait, tout ce qu'ils mangeaient avant, leur façon de pêcher, de chasser. Pour moi, je voulais vraiment revenir, on peut dire, à la source. Je pense que les ancêtres sont toujours là, en fait, en train de nous rappeler ce qu'on doit faire, c'est-à-dire s'entraider, en fait, entre nous. Quand je ressens toute cette vibration-là des anciens sur moi, tout ça, je suis calme, je me sens bien, tranquille. Quand tu ressens la paix, je prie le tiki, en fait.
Et comment il connaît le tiki?
La prière au tiki.
Tous les soirs, je fais des petits shows comme ça. C'est le tiki. On élève le tiki. Voilà, au-dessus des autres.
Et la première fois que vous dansez, il se passe quelque chose.
Voilà, et la première fois, j'ai ressenti des tremblements, la chair de poule, comme si quelqu'un me soulevait. Oui. Je sentais la présence de quelqu'un. C'est une petite danse, en fait, que voilà, je fais pour le remercier de me garder tout le temps, d'être là, de me protéger aussi. C'est lui qui me guide tout le temps, tout le temps. Des tiki, on en a partout. Je les remercie de me donner la force. Jamais je perdrai ça, d'être un guerrier. Peut-être que je suis tout seul à le ressentir. Le tiki, on ne l'adore plus maintenant. C'est autant de nos anciens. Il y en a beaucoup qui sont contre.
Parce que c'est contraire à la religion catholique.
Exactement. En ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. D'adorer le tiki, de le prier, de danser devant le tiki. Enfin, c'est notre religion qui nous empêche de faire ça. Pour la religion catholique, le tiki est considéré comme un diable. Il ne faut plus croire en ce temps-là. C'est ce que nos anciens nous disent. J'ai cette religion-là, je suis catholique. Mais j'ai aussi cette partie-là.
Alors ça, c'est un peu une manière d'être païen sans le dire. Hein. Quand on commence à prier un tiki, quand même, normalement, on tourne le dos à l'église. Enfin, il y a une ambiguïté sur laquelle on laisse les hommes d'église effectivement se positionner. C'est peut-être aussi le 21e siècle. La tradition, c'était la religion des temps anciens. La modernité, ça a été le christianisme. Et on est dans ce que les anthropologues appellent la post-modernité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on mélange un peu la religion des temps anciens et la religion moderne. On se fabrique sa petite religion à soi. Et c'est là où on est dans le renouveau culturel, une manière non seulement d'assumer, mais peut-être de faire des choses que leurs parents avaient essayé de ne plus faire ou avaient oublié. J'espère qu'après les gens se sentent bien, parce que c'est compliqué aussi de gérer des éléments de deux religions, de deux ou trois cultures. Voilà, il y a ceux qui peuvent se trouver quand même un peu perdus là-dedans, ou extrêmement dominés, ou souffrir. Mais on peut considérer que la Polynésie française, c'est quand même un peu un creuset de plusieurs cultures et de plusieurs strates maintenant culturelles, qui fait que c'est un endroit très intéressant, c'est vrai, à observer.
Ma vie a changé au niveau de la culture. J'ai commencé à me renseigner en fait sur la culture. J'ai acheté pas mal de livres sur l'histoire des Martiniens avec Van der Steiner, les premiers livres, pour regarder un peu l'histoire de toutes les îles, au niveau des tatouages, tout ça. Et c'est ça qui m'a motivé en fait à reprendre une partie de la culture, c'est-à-dire le tatouage.
Vous avez le corps quasiment entièrement tatoué.
Je suis habillé à la Martinienne, voilà. Je suis habillé à la au niveau du tatouage. Je me sens vraiment Martinien.
Le tatouage accompagnait vraiment les Marquisiens au long de leur vie.
Marino Allottino, ethnologue.
Parce qu'il marquait pratiquement qu'ils étaient, leur appartenance familiale, la tribu, disons, le clan à lequel ils appartenaient. Les étapes de leur vie étaient marquées sur la peau, hommes comme femmes.
Puis c'était aussi une protection.
C'était aussi une protection. L'idée de ce tatouage, justement, c'était d'éviter que ne s'échappe cette énergie que l'on a en soi, ou qu'elle soit justement mise en contact de quelque chose de polluant, entre guillemets, qui va détruire une partie de ce mana. Donc si on est protégé par un tatouage, c'est beaucoup mieux. On se souvenait, nous, quand nous étions dans les années 80, d'avoir entendu dire qu'au moment d'une toilette funéraire, par exemple, des membres d'une famille s'étaient aperçus que leur mère pouvait avoir encore des tatouages intimes qu'ils n'avaient pas soupçonnés, parce que on avait gardé quelques croyances ou quelques confiances en certains motifs très importants pour protéger les femmes. Par le biais de cette interrogation des jeunes qui sont allés voir des anciens qui avaient été élevés par des personnes totalement tatouées, qui avaient des souvenirs, quelques notions. Mais c'est vrai que le tatouage est reparti.
Les premiers tatouages que j'avais eus, c'était juste après mes 18 ans. On a commencé à démarrer le festival, le premier festival. Et c'est ça qui m'a poussé, en fait, à vraiment me faire tatouer à tous les motifs que les ancêtres portaient. Et surtout pas de mélange.
Sur chaque épaule.
Sur chaque épaule, il y a cette motif-là. C'est une sorte de protection au niveau de moi et de ma famille.
Voilà, alors ici, ce sont une sorte de rosace. Hein.
Voilà, le plus connu, c'est la croix marquisienne. Moi, j'en ai un peu partout. Bon, il faut tourner le bras parce que... Bon,
tatoué de la tête aux pieds. Voilà. Là, voilà, la croix marquisienne.
La croix marquisienne, cela permet de reconnaître, en fait, un vrai marquisien.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme...
Il y a le hipou. C'est des motifs que les guerriers portaient pour montrer vraiment que c'était des guerriers avant. Ils portaient tout le long du bras. Hein.
Et puis, vous êtes aussi tatoué dans le dos.
Le dos, sur la jambe, enfin partout, un petit peu partout.
Les motifs en soi étaient issus de grandes sources d'inspiration, disons, hein, celles qui étaient dérivées du tressage et qui étaient les plus géométriques, mais celles qui sont issues du corps humain. Parce que, en réalité, très souvent, l'idée est d'être en quelque sorte enveloppé, protégé de son corps entier et les portes, j'allais dire, les ouvertures du corps, de la force d'une entité qu'on peut parfois appeler un tiki pour simplifier les choses, tout ce qui a une forme humaine et le fait même de tatouer, on dit pas tout tiki, c'est-à-dire on frappe des images d'une figure anthropomorphe de tiki.
Voilà, c'est lequel le dire, on a l'impression qu'ils ont le tatouage dans la peau.
Avoir la mémoire dans la peau, absolument, parce que l'État n'interdit plus et les Marquisiens peuvent réapproprier en quelque sorte cette tradition de se tatouer. Mais c'est certain qu'il y a une recherche de ce qu'était cette culture marquisienne, ce qu'était cette identité polynésienne et marquisienne. Donc c'est une espèce de réappropriation, de compréhension de ce que pouvait être ce monde. Et là, il peut y avoir toutes sortes de perceptions.
Mon rêve aujourd'hui, c'est de persévérer en fait, cette culture-là, de continuer. J'ai commencé à le faire avec mon fils. Et en parlant de ça avec mon fils, je lui ai dit, j'espère que tu transmettras ça à tes enfants.
ainsi de suite. Parce que je l'ai initié au tatouage dès ses premiers 18 ans. Il s'est fait tatouer tout le bras, le dos, sans l'accord de ma maman. Et je suis content, il est en train de le faire. Là. C'est pas tout le monde qui devient marquisier en fait. Il faut vraiment le mériter.
Voyage en terre d'outre-mer. À la reconquête de l'identité. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kaimuko, Humukurea, Enap. Kaimuko, c'est un nom de mon grand-père. Si on doit décomposer le nom, Kai, qui veut dire manger.
Et tu me montres tes dents.
Manger. C'est des ancêtres, apparemment, Kenba. C'est un grand honneur pour moi, pour pouvoir continuer ce que mes ancêtres ont voulu faire, eux, que moi, je dois continuer. D'abord, on va rester là, parce que ça commence à faire peur.
Mukaimoko est apparu les pieds nus, avec sa longue chevelure de jais, et ses tatouages géométriques sur les épaules et les jambes. Il est d'une lignée de danseurs, de chanteurs et de conteurs. Avec lui, le temps s'arrête dans ce site sacré d'Atuna. C'est là qu'avaient lieu jusqu'au XIXe siècle les célébrations rituelles qui rythmaient la vie et les mœurs des marquisiens. Aujourd'hui, Oumu s'y rend chaque matin, y puiser l'énergie d'un guerrier de la culture.
Chez les marquisiens, en Polynésie,
se dirige, on l'appelle Tohua Upeke. Par sa structure, on peut imaginer le vécu de nos ancêtres. Sur le côté des esprits de nos ancêtres qui nous regardent.
Il faut imaginer tout autour de nous des voilà, parois avec des cascades.
On dit, hein, Topa Yavai, c'est la vie. L'eau, c'est la vie avant. C'est un cadre idéal pour se ressourcer dans le travail de nos ancêtres.
Puis la puissance de ces éléments naturels, ces pics rocheux, cette jungle, ces cascades.
Quand je vois tout ça, ça rappelle où est la place de l'homme. Par les incantations, par les muta'a qu'on appelle ici, on évoque beaucoup les phénomènes naturels. C'est comme si on évoquait actuellement dans une religion le Dieu. Et nous, nos ancêtres, c'était eux, les grands esprits. La terre, c'était l'eau, c'était le vent, c'était le nuage. Tout ça me donne un autre esprit de ce que les ancêtres pensaient par rapport à maintenant. Je me suis dit que voilà, les ancêtres avaient une vue plus large, plus concrète, parce qu'ils étaient entourés de grands esprits. Et ça, c'était, waouh, c'est magnifique. Voilà. Après, on a quand même des sons qui nous entourent, comme les sons des oiseaux. Et on a essayé de trouver un son lourd, comme on entend au bord de mer, la vague qui vient se frapper contre les rochers. On a essayé de le représenter ici sur le site. Juste une pierre avec un trou qui a été sculptée par la main de nos ancêtres. Pour moi, cette simple pierre parle du respect qu'eux avaient pour la culture, parle de ce qu'ils voulaient transmettre, partager avec les autres. Et pour moi, ça, c'est formidable. Les anciens, ils ont construit ce qu'on appelle le tonwa. Et donc sur le tonwa, c'est le lieu pour nous idéal pour être en symbiose avec les anciens. Toute la tribu dansait dans cet espace. Je viens ici revivre ce que les ancêtres ont vécu. La première fois où j'ai dansé avec mon père au piquet, ça a été pour moi un passage entre petit garçon qui a tout le temps observé sur le côté et en étant ici, en dansant à côté de mon père, face à tout un peuple Enata autour. C'était énorme parce que le peuple que je voyais autour, avec les esprits de nos ancêtres, des anciens qui tapent le tambour, c'est comme des flashs. C'est pas pour rien que j'ai ces images-là. C'est que le mana y est. Mon mana va se relier au mana de mes ancêtres qui sont partis. donc va permettre une connexion spirituelle entre moi et les ancêtres. Et la danse de l'oiseau était importante parce que c'était un animal qui, pour les ancêtres, se connectait avec les étoiles. C'est ce qui connectait l'horizon, ce qu'on appelle le Hawaï, donc l'horizon de la mer.
Quand vous dansez, on sent que vous êtes véritablement habité, que finalement ce sont tous les ancêtres qui vous guident.
Ils se sont possédés parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Je suis fier de vouloir présenter ce qu'ils nous ont laissé. Et en même temps, c'est un devoir pour moi de le faire et de pouvoir le transmettre.
Les îles Marquises sont quand même beaucoup dans une culture de la démonstration et de l'action, de l'acte, que ce soit un spectacle ou un acte beaucoup plus intime et privé. Ils sont un peu en représentation permanente, en dialogue permanent avec l'autre. Il y a beaucoup de visiteurs dans leur île, ils sont quand même que voilà, 8000 personnes. On vient les voir, on attend d'eux aussi qu'ils aient une posture marquisienne. Et donc à force, c'est un peu comme un acteur de théâtre. À quel moment est-ce qu'il joue un rôle et à quel moment est-ce qu'il arrête son rôle? Il peut être amoureux de son personnage et puis quand il joue son personnage, il le joue très sincèrement. Dans d'autres îles, vous allez à Tahiti, à Raiatea, à Moorea, etc. Les gens passent pas leur temps à aller sur des sites anciens pour faire des prières ou des commémorations. Donc c'est vrai que les îles Marquises sont voilà, dans l'action culturelle et identitaire. C'est un scénario, c'est impossible.
Et voilà, Oumu nous invite à nous rapprocher de ces pierres, la pierre de ses ancêtres, qu'il touche. Et c'est un endroit très religieux pour lui.
Je vais les remercier de nous avoir laissé tout ce qui nous entoure là. Je vais leur rendre hommage par Haka.
Le prochain festival des arts marquisiens aura lieu en décembre. Des milliers de personnes viendront de toute la Polynésie saluer cette identité retrouvée. Une identité qui passe aussi aujourd'hui par une redéfinition du sexe et du genre. C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans Voyage en terre d'outre-mer. C'était un documentaire d'Anne Pastor, réalisé par Clément Baudet, au montage Édouard de Penoat, assisté de Maréva Jacquard, stagiaires Charlotte Landru-Chandès et Marie Bocher, au mixage Basile Bocquer et à la programmation musicale Chewbacca.
Kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear. Risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run to the road. Welcome to jungle, dear. Where lorries are chariots, railways are stairways to heaven. Heaven is brightened.
Vous pouvez prolonger ce documentaire sur franceinter.fr. Merci encore à David Redon, Thomas Mouzard de l'ADAC, Pierre et Marie-Noël Otino, Déborah Kimitété et Kerita de la Motte. Ce programme a reçu le soutien en Guyane d'Air Caraïbes, Air Guyane et Evaneos, en Polynésie d'Air Tahiti Nuit et de l'Office du Tourisme. Le voyage continue sur France Inter avec Stéphanie Fromentin dans l'espace francophone. Aujourd'hui, la place des femmes à Tunis et en Occident.